Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nouvelle escalade dans le conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine. Pékin annonce l'imposition de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars d'importations américaines. Un avion militaire russe abattu par l'armée syrienne au large de la Syrie. Moscou évoque des circonstances accidentelles tragiques après avoir jugé Israël responsable du drame. Emmanuel Macron présente une ambitieuse réforme du système de santé. Parmi la cinquantaine de mesures annoncées, la suppression du numerus clausus, la création du métier d'assistant médical pour soulager les médecins, ou encore une nouvelle organisation des hôpitaux, les uns axés sur la proximité, les autres plus spécialisés. Ce sera le dossier de ce journal, suivi par Tara Schlegel. L'urbaniste et philosophe Paul Virilio a succombé à une crise cardiaque. Philosophe de la technique et de la vitesse, il avait décrété la fin de l'horizontale et de l'angle droit et il annonçait une disparition de l'espace. Éclairage en fin de journal de Clotilde Dumetz. Qui aura le dernier mot entre la Chine et les États-Unis? La guerre commerciale entre les deux géants s'intensifie. Hier, les présidents américains Donald Trump annonçaient la taxation de 200 milliards de dollars d'importations chinoises à partir de lundi prochain. Pékin vient de répliquer. Les taxes chinoises vont augmenter sur plus de 5000 produits américains importés. La Chine présente sa décision comme une réponse forcée à l'unilatéralisme et au protectionnisme des États-Unis et elle prévient qu'elle relèvera encore ses tarifs douaniers si Washington le fait de son côté. Grégory Philips, vous suivez ce conflit commercial depuis Washington. Donald Trump a l'air décidé à poursuivre le bras de fer. Jusqu'où tout ça peut-il aller ?
Ah, eh bien, ça peut aller très loin. Vous savez, à chaque nouvelle salve de sanctions, la Maison-Blanche propose une addition un peu plus salée. 50 milliards cet été, 200 milliards maintenant, et ce, dès lundi prochain. Ces importations chinoises seront taxées à 10%, mais l'administration américaine menace de monter ces taxes à 25% et surtout d'élargir encore la liste des produits concernés. Trump l'a déjà dit, s'il le faut, on taxera l'ensemble des importations chinoises qui arrivent ici sur le sol américain. Chaque année, la Chine exporte ici pour 500 milliards de dollars de produits, et si le bras de fer continue, ce sera donc l'intégralité de ces importations qui pourraient être concernées. Il faut quand même rappeler, Aurélie, qu'il y a un déficit commercial énorme entre les deux pays. La Chine importe 4 fois moins de produits américains qu'elle n'en exporte vers les États-Unis. Dans ce bras de fer, la volonté de Trump, c'est de réduire ce déséquilibre et aussi de taper sur les industries chinoises qui ne respectent pas les brevets et les codes de la propriété intellectuelle.
Et alors, comment réagissent les entreprises américaines et les consommateurs? Ils sont inquiets?
Oui, surtout parce que les produits chinois importés ici vont coûter plus cher dès lundi. Grosse inquiétude des consommateurs américains. Et donc le Trésor a pour l'instant épargné certains produits de première nécessité ou très populaires, comme par exemple les sièges auto pour enfants, les chaises hautes, les téléphones, notamment les iPhones ou encore des produits agricoles, qui donc pour l'instant échappent à ces nouvelles taxes. Et puis inquiétude aussi des entreprises américaines qui travaillent avec des partenaires chinois. Il y a quelques jours à Détroit, je rencontrais la patronne d'une entreprise de sous-traitance dans l'automobile qui importe des produits chinois et qui me disait en résumé, dans une guerre commerciale, tout le monde a à y perdre et nous les premiers.
Grégory Philips, en direct de Washington. L'incident remonte à hier soir. Un avion russe avec 15 militaires à bord est alors abattu au large de la Syrie par la défense anti-aérienne syrienne. Les deux pays sont alliés. Ce tir semble être dû à une méprise. Selon le président russe Vladimir Poutine, l'appareil a été victime d'un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques. Mais la Russie a attribué la responsabilité du drame à Israël, dont l'aviation menait un raid chez son voisin syrien. Les explication de Marine Vlaovic à Jérusalem.
C'est un fait assez rare pour être signalé, car Israël a pour habitude de ne jamais communiquer sur ses interventions militaires dans la région. Mais cet après-midi, sous la pression russe, l'État hébreu a finalement revendiqué les frappes aériennes qui ont touché et l'attaqué hier soir. Objectif, selon les forces de défense israéliennes, pilonner une installation de l'armée syrienne, une installation spécialisée dans la fabrication d'armes de précision, des armes sur le point d'être transférées pour le compte de l'Iran au mouvement chiite du Hezbollah au Liban, l'ennemi juré de l'État hébreu. C'est peu après cette attaque que le système de défense antiaérien syrien imprécis, ajoute l'armée, a abattu par erreur l'avion russe avec 15 militaires à bord. Israël a présenté ses condoléances et a exprimé sa tristesse à la Russie, sans pour autant réussir à calmer la colère de Moscou, qui pointe Tel Aviv comme le principal responsable. L'État hébreu s'arroge une véritable liberté d'action chez son voisin syrien. Dans sa ligne de mire, le Hezbollah et l'Iran, les alliés de Bachar el-Assad. Au début du mois, Israël s'était vanté d'avoir mené pas moins de 200 frappes en Syrie, visant des sites iraniens, en moins de 18 mois. Des frappes qui se sont intensifiées ces dernières semaines.
Hier, la Turquie et la Russie avaient annoncé un accord sur la création d'une zone démilitarisée dans la province syrienne d'Idleb. Le secrétaire général de l'ONU salue cette initiative. Antonio Guterres estime qu'elle offre un sursis à des millions de civils. Le patron du renseignement allemand vient d'être démis de ses fonctions. La chancelière allemande Angela Merkel avait réuni aujourd'hui ses partenaires de coalition pour statuer sur son sort, Nathalie Versieux.
Oui, effectivement. Alors, il faut voir que Hans-Georg Maaßen n'était vraiment plus tenable. Angela Merkel a donc imposé à son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, le départ du chef du service de renseignement intérieur qui avait dérogé à son obligation de se retirer de la vie politique. Ses déclarations au moment de Chemnitz avaient énormément choqué dans le pays. Le SPD demandait depuis longtemps la tête de Hans-Georg Maaßen qui avait multiplié des déclarations maladroites qui pouvaient laisser supposer une certaine collusion avec l'extrême droite de sa part. Angela Merkel souhaitait également son départ. C'était donc son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui lui tenait à conserver Hans-Georg Maaßen. Et c'est donc la raison pour laquelle les trois partenaires de la coalition ont finalement décidé ce soir de ne pas le prolonger dans son mandat. Ici, le quotidien Bild Zeitung évoque la possibilité pour Maaßen de passer au ministère de l'Intérieur, alors de faire partie des salariés du ministère de l'Intérieur et de quitter donc la tête des renseignements.
Merci Nathalie Versieux en direct de Berlin. Il avait brièvement interrompu la finale de la Coupe du Monde de football en juillet à Moscou. Piotr Verzilov, militant du groupe de rock russe contestataire Pussy Riot, a été très certainement empoisonné selon les médecins allemands qui le soignent dans un hôpital de Berlin, mais ses jours ne sont plus en danger. Comme le petit Aylan, il y a 3 ans, le corps d'une fillette a été retrouvé sur une plage ce week-end. Elle n'était pas syrienne mais comoréenne. La plage ne se trouvait pas en Grèce mais sur le territoire français. C'est au nord de Mayotte, 101e département français, que le corps de cet enfant de 8 ans a été découvert. La fillette était probablement atteinte d'une infection, indique la gendarmerie, qui suppose que son voyage clandestin vers Mayotte a été organisé pour qu'elle soit prise en charge par un centre hospitalier. Restructurer pour les 50 années à venir le système de santé, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron. Un système qui souffre principalement, selon le chef de l'État, d'un handicap d'organisation. Il prescrit donc une réorganisation collective et prévoit pour cela de débloquer 3,4 milliards d'euros d'ici 2022. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Alors quel est l'état d'esprit de ce plan santé?
400 millions pour l'année prochaine d'euros de rallonge. Aurélie, ça peut sembler peu, mais le gouvernement fait le pari d'inciter les professionnels à travailler ensemble. Villes, hôpitaux, publics privés, médicaux, paramédicaux, pour adapter notre système de santé à une société qui vieillit avec beaucoup de malades chroniques qu'on ne prend pas bien en charge. Toute cette philosophie se décline en 50 mesures, du numerus clausus à l'hôpital de proximité.
Alors on ne peut pas tous les détailler, mais revenons d'abord sur une idée phare, Tara. Dégager du temps médical pour les médecins, notamment dans les zones tendues.
Oui, rendre plus fluide la prise en charge des malades et lutter contre les déserts médicaux. Pour cela, le gouvernement crée une profession, assistants médicaux. Ça existe à l'étranger. Ils seront là pour épauler généralistes et spécialistes à condition qu'ils se regroupent. Pas forcément physiquement, mais au moins qu'ils travaillent tous en réseau. Et ces assistants feront gagner du temps pendant les consultations en déshabillant un bébé, en remplissant un dossier à la place du médecin. Jean-Paul Ortiz de la CSMF, Fédération des syndicats médicaux français, et partant sous certaines conditions.
Si on nous donne les moyens de mieux nous organiser dans les territoires, si on arrive à être déchargé de cette dérive bureaucratique, en particulier avec les assistants médicaux que nous souhaitons, nous pourrons prendre en charge, y compris ce qu'on appelle des soins non programmés, et nous nous organiserons collectivement. Je ne veux pas entendre parler d'une obligation individuelle. Il faut laisser les médecins s'organiser au niveau des territoires. Et ensemble, collectivement, nous pourrons assumer cette responsabilité collective vis-à-vis de la population, y compris sur les urgences de ville.
Voilà Aurélie, donc ces urgences de ville sont une exigence du gouvernement en contrepartie du financement des assistants médicaux justement et de l'argent qui va être alloué aux praticiens qui acceptent de travailler en réseau. L'autre syndicat de médecins, la Fédération des médecins de France, est un peu plus critique que la CSMF. Son président Jean-Paul Hamon estime que le président de la République voit juste mais n'y met pas les moyens, notamment pour les assistants médicaux.
4 000 c'est bien, mais c'est 50 000 emplois qu'il faut créer. pour justement organiser la médecine de proximité, faire en sorte qu'ils n'aillent pas aux urgences hospitalières. Quand j'entends qu'on demande de travailler jusqu'à 22 heures, ça fait maintenant 14 ans que j'ai créé la maison médicale de garde intercommunale à Clamart, qui concerne quand même 300 000 habitants. Je pensais qu'on verrait environ 12 000 patients par an. On n'en voit que 4 000. Pourquoi ? Parce que le tiers payant que je réclame depuis 14 ans, je ne peux pas l'avoir. Quand moi je le réclame pour que justement on soit à égalité avec les urgences hospitalières, on ne nous le donne pas. Mais encore une fois, c'est pas massif là. Hein ? Il fallait vraiment un truc fort. Et là, on sent qu'il a sûrement compris l'ampleur du désastre, mais il veut pas mettre le paquet dessus.
Pardon Tara, au-delà des médecins de ville, une partie du plan s'attaque à l'hôpital qualifié de parent malade du système. Le président de la République veut créer 500 hôpitaux de proximité qui perdraient certaines fonctions. Il réaménage tout le système.
Oui Aurélie, pour améliorer la qualité des soins, l'idée est de confier la gériatrie, l'imagerie par exemple et les soins de suite à ces petits hôpitaux de proximité, 500-600 à l'avenir, mais pas la chirurgie ni la maternité qui seront réservés aux CHU et aux hôpitaux de pointe. Une gradation qui convient bien à Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Cette mise en musique d'une prise en charge progressive, c'est une bonne idée. Depuis la proximité jusqu'à des plateaux techniques intégrés sur des hôpitaux importants ou des CHU. Après, derrière, le diable se cache dans les détails. Quels seront réellement les financements qui seront mis en face de cette transformation du système de santé? Jusqu'où on demandera aux médecins de ville, on les poussera aussi à épauler les hôpitaux et à prendre en charge, notamment à soulager les urgences? Jusqu'où on va lutter contre les actes inutiles qui permettent de faire des économies, mais quand on régule les actes, eh bien, on touche à la rémunération de certains professionnels. Donc voilà, c'est dans les détails qu'on verra l'efficacité de cette réforme.
Et le gouvernement parie sur l'intelligence des acteurs du secteur pour se saisir de la réforme.
Tara Schlegel, arrêtez d'emmerder les retraités, aurait dit Emmanuel Macron à des collaborateurs qui réfléchissaient à une modification des droits de succession. Le gouvernement semble bel et bien vouloir rassurer les retraités en ce moment. Il y aura dans le projet de budget 2019 un dispositif destiné à compenser la hausse de la CSG pour 100 000 retraités modestes. Cette mesure permettra à ces retraités d'être complètement exonérés l'an prochain de la hausse de 1,7 point de la CSG, entrée en vigueur au 1er janvier. L'Assemblée poursuit l'examen du projet de loi sur la fraude fiscale. Les députés se sont penchés cet après-midi sur l'article 7 qui prévoit une sanction administrative contre les intermédiaires qui aident les fraudeurs, par exemple des conseillers fiscaux ou des avocats fiscalistes. L'article a été largement adopté, Marie Viennot. Pourtant, vous avez entendu cet après-midi autant d'arguments pour le supprimer que pour le renforcer.
Alors, les intermédiaires, avocats ou officines qui pourraient faire commerce du conseil en fraude fiscale peuvent déjà être poursuivis pénalement, il faut le dire pour comprendre la suite. La complicité de fraude fiscale est déjà un délit. Ce que change cet article 7, c'est que cette complicité puisse être l'objet de sanctions administratives, donc d'amendes. Et là, cela concerne tous les cas où l'administration considère qu'il y a fraude et impose un redressement de 80% voire plus, sans pour autant transmettre le dossier à la justice. Alors cet article se veut dissuasif. Le problème, c'est que la frontière entre optimisation fiscale et fraude est très poreuse. Alors que l'administration soit la seule à en juger et puis imposer une amende, c'est lui donner trop de pouvoir, selon certains députés de droite et de La République En Marche qui ont proposé de le supprimer sans succès. A l'opposé, la France Insoumise a déposé des amendements pour renforcer l'amende que le parti jugeait insuffisante et pas assez dissuasive. Refusée aussi, l'amende sera donc de 10 000 euros au minimum et jusqu'à 50% des revenus tirés de la prestation. Plus loin encore, plusieurs amendements ont proposé que l'on crée un nouveau délit, le délit d'incitation à la fraude fiscale, passible de 500 000 euros et 5 ans d'emprisonnement, refusé aussi. Alors plusieurs heures de débat auront été nécessaires pour examiner les 80 amendements déposés sur cet article 7, preuve de l'intérêt des parlementaires pour le rôle crucial et de plus en plus documenté que jouent ceux que le ministre du Budget a nommés les ingénieurs de la fraude. Le problème, c'est que ces ingénieurs sont souvent à l'étranger, les attraper ne sera donc pas si simple, et que cette nouvelle disposition risque aussi d'augmenter les contentieux entre l'administration fiscale et ceux qui s'estimeront injustement sanctionnés.
Marie Viennot. Gilles Legendre prend la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il succède au nouveau président de l'Assemblée, Richard Ferrand, dont il est proche. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Gilles Legendre a largement remporté le second tour de ce scrutin interne face à Roland Lescure.
Oui, le deuxième tour en début d'après-midi devait départager les deux candidats arrivés en tête ce midi. Et c'est donc Gilles Legendre, 60 ans, déjà vice-président et porte-parole porte-parole du groupe, qui s'est imposée avec 157 voix contre 107, vous l'avez dit, pour le député de l'étranger Roland Lescure. Roland Lescure qui va donc pouvoir se consacrer désormais à 100% à l'énorme projet de loi Pacte dont il est le rapporteur général et à qui Gilles Legendre a adressé sa première déclaration.
Je salue d'ailleurs le candidat finaliste avec moi, Roland Lescure, qui a fait lui aussi un très beau score. Nous sommes absolument tous unis maintenant pour aller de l'avant, pour soutenir le programme de réforme du président de la République et du gouvernement. Nous savons aussi, ça a été l'objet d'un certain nombre de débats entre nous, qu'un certain nombre de pratiques, d'habitudes, de fonctionnements pouvaient évoluer au sein du groupe. Je m'y suis engagé et je les mènerai avec ardeur.
Un vœu d'unité dans un groupe qui tangue. En cette rentrée, il n'y a plus que 309 députés LaREM à l'Assemblée après la démission de l'élu des Hauts-de-Seine, Frédéric Dumas, qui a rejoint le groupe UDI, Agir et Indépendant. Frédéric Dumas qui a comparé dimanche dernier le groupe de la majorité à un Titanic, un groupe qui confond selon elle vitesse et précipitation. Il faudra donc toutes les compétences de l'ancien journaliste et entrepreneur pour insuffler un nouveau souffle. Gilles Legendre qui a été applaudi par ses collègues lors des questions au gouvernement cet après-midi. La séance était présidée pour la première fois par Richard Ferrand, dont le nouveau président du groupe est un très proche.
Et Gérard Collomb se positionne pour reprendre la mairie de Lyon. Le ministre de l'Intérieur annonce sa candidature au municipal de 2020, dans la ville dont il a déjà été maire, de 2001 à 2007. Il devrait quitter le gouvernement après les élections européennes de mai prochain. Dans l'entourage du chef de l'État, on salue une bonne nouvelle, même si la perspective du départ de ce fidèle d'Emmanuel Macron ajoute un peu à la sensation de confusion en cette rentrée mouvementée. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Alors revenons-en aux ambitions de Gérard Collomb. Un an et demi avant les municipales, c'est pas un peu tôt pour se lancer ?
Les élections municipales, on a l'impression qu'on en est encore loin, mais en réalité c'est une échéance qui approche à grands pas. C'est mars 2020, dans 18 mois, un an et demi. Autant dire demain, quand on prépare sérieusement une campagne électorale. D'ailleurs, les grandes manœuvres ont déjà commencé dans de nombreuses villes en France. Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne à Marseille. Un affrontement sanglant s'annonce pour la mairie de Nice entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. À Paris, plusieurs candidats se sont déjà fait connaître pour affronter la maire sortante Anne Hidalgo. Et à Lyon, c'est la même chose. Il est temps, selon le député du Rhône Bruno Bonnel, que Gérard Collomb redescende dans l'arène.
Il y a une situation locale qui est qu'on constate une montée de la droite extrême et également, négligeons pas Marion Maréchal sur l'extrême droite sur notre territoire. Donc moi je pense que se poser en rassembleur, c'est important. Il faut du temps pour régénérer un certain nombre de volontés politiques. Donc partir tôt, c'est aussi bien se préparer.
Alors certes, on peut s'interroger sur le calendrier de Gérard Collomb, sur le fait qu'il annonce ça maintenant, après le départ de Nicolas Hulot, et alors qu'Emmanuel Macron connaît une rentrée difficile. Mais il ne faut pas imaginer que ce serait le fruit d'une brouille, d'un désaccord entre le président de la République et son ministre. Gérard Collomb a été et reste l'un des plus fervents soutiens d'Emmanuel Macron. Il a été l'un des grands artisans de sa victoire à la présidentielle. Il est l'un des rares qui puisse dire publiquement son désaccord sans que ça porte à conséquence. Ça a été le cas sur les 80 km/h et plus récemment après l'affaire Benalla sur le manque d'humilité. Non, ce qui se passe, c'est que Gérard Collomb n'est pas tout jeune, 71 ans, qu'il a atteint son Graal en étant nommé ministre, mais que l'exercice de la fonction ne le passionne pas plus que ça, et qu'il a toujours eu l'intention de retourner à Lyon terminer sa carrière politique. C'est donc ce qu'il va faire, tout en restant au service d'Emmanuel Macron, puisqu'en termes d'ancrage local, les municipales sont une échéance capitale pour La République En Marche.
Stéphane Robert. Et puis l'urbaniste Paul Virilio, également essayiste et philosophe, est décédé le 10 septembre, victime d'une crise cardiaque. Sa famille l'a annoncé aujourd'hui, au lendemain de ses obsèques. Paul Virilio, 86 ans, avait encore des projets de livres et d'expositions. C'était un théoricien de la vitesse, du virtuel et de la désintégration des territoires, Clotilde Dumetz.
Un théoricien interrogateur qui expliquait à Alain Weinstein en 2004 sur France Culture comment et pourquoi il était devenu architecte.
Je suis d'un milieu très pauvre et donc je cherche ma voie et très vite finalement c'est l'architecture qui va m'attirer. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de la guerre et quelque part la destruction d'une ville comme Nantes ou d'autres a été pour moi une sorte de révélation de la relativité du cadre bâti. Et à partir de là, on a envie de travailler à la résistance, mais à la résistance architectonique, c'est-à-dire à ce qui tient, à ce qui dure, la ville, la cité.
Ce qui tient, ce qui dure, ses écrits. Par exemple, Paul Virilio a publié plus d'une trentaine d'essais, collaboré à de très nombreuses revues. Dans les années 80, il s'était engagé en faveur des sans-abri, des exclus. Plus récemment, les questions des migrations climatiques et économiques, mais aussi la déforestation lui tenaient à cœur. Paul Virilio, le philosophe urbaniste, s'interrogeait sur le partage et l'emploi de l'espace. Quel emploi de l'espace pour quel emploi du temps dans la ville? Et de s'interroger sur la faiblesse des démocraties face à la vitesse du monde. Une vitesse qui rendait la Terre trop petite, disait-il, nous obligeant à une fuite en hauteur avec la prolifération des tours, sans compter que notre planète, nous n'en prenons pas trop soin.
Quelque chose de nouveau se joue, et en particulier se joue depuis l'événement de Fukushima. C'est la possibilité d'un nouveau vide, qui ne serait pas le vide des zones inhabitables, là où il fait trop froid, là où il fait trop chaud, mais des zones inhabitables interdites à jamais. On est déjà dans l'idée de créer des déserts, de l'inhabitabilité.
Paul Virilio, lors d'un colloque à la Cité de l'architecture et du patrimoine en 2011. Paul Virilio qui est donc mort la semaine dernière à 86 ans, Aurélie.
Clotilde Dumetz, demain le temps sera généralement calme et sec. Les températures 12 à 21 degrés le matin du nord au sud, de 22 à 31 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.